Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétête.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors ce matin, nous allons avoir un sermon de circonstance.
Ça va être
bien sûr sur la Pâque.
Et on
va voir un certain nombre de choses à propos de la
Pâque. Parce
que c'est une fête qui est fêtée partout dans le monde entier.
Mais
il y a quelque chose de profond dans la
Pâque.
Vous savez, parfois, il y a beaucoup de choses que les gens font par tradition.
Et ils ne
comprennent pas que souvent, derrière, il y a de puissantes réalités.
Et au
travers de la
Pâque,
Dieu a voulu nous montrer de puissantes réalités
spirituelles.
Nous verrons d'abord que l'homme
a besoin
d'un sacrifice.
Et
nous verrons
pourquoi.
Ensuite, nous verrons que Dieu
a
institué la
Pâque
pour les Israélites. Et que finalement, Jésus va être la vraie
Pâque.
Et nous allons découvrir les bénéfices de ce que Christ a réellement fait pour
nous. Parce
que ça, c'est
fondamental.
La première chose que nous allons lire, c'est bien sûr Luc chapitre 22, versets 7 à 20.
Luc 22, versets 7 à 20.
Versets 7 à 20. C'est juste avant le sacrifice de Christ. Il est dit, le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. L'heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Et il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, la leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Alors pourquoi est-ce que Jésus, avant de se donner en sacrifice, va vouloir manger cette dernière Pâque avec ses
disciples?
Est-ce que c'est simplement une illusion, enfin une mode?
Est-ce que c'est
une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une puissante vérité? Pourquoi est-ce que Jésus a voulu manger cette Pâque avec ses disciples? Y a-t-il pas quelque chose de puissant derrière tout ça? De divin? Bien évidemment. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est qu'évidemment, quand on parle de
Pâques,
on parle souvent, et c'est une expression connue par le monde entier, d'agneau pascal. Et derrière tout ça, nous savons qu'il y a le sacrifice de cet
agneau.
Alors, pourquoi du sacrifice? Si vous lisez la Bible, vous verrez que du tout début quasiment, jusqu'à la fin, on parle de sacrifice. Et moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a une vingtaine d'années, je lisais tout le temps, sacrifice, le sang qui coule, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et je me disais, mais pourquoi Dieu est-il un Dieu sanguinaire qui aime le sang ou quoi? Non, j'ai découvert plus tard qu'il y avait de puissantes vérités.
Mais c'est vrai que parfois ça peut un peu nous choquer.
Quand vous lisez la loi de Moïse,
vous commencez l'Exode,
vous lisez Lévitique,
et particulièrement Lévitique,
vous voyez Dieu ordonnait de prendre un animal,
de
l'égorger d'une certaine façon,
d'en
prendre son sang,
et
il fallait asperger du sang
sur
des ustensiles.
Des
fois sur des personnes,
du sang.
Ça peut être un peu choquant pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu voulait ça?
Eh
bien, c'est très simple. Il va y avoir une loi spirituelle. Et pour la voir, on va être obligé d'aller au début du début. On va trouver dans Genèse
3.
Dieu va créer Adam et
Ève.
Et vous savez, dans le cœur de Dieu, la création de l'homme tient une place extrêmement importante. Si vous lisez le début de la Genèse, tout ce que Dieu va créer, ça va être bon. Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu va dire qu'il va trouver cela très bon. L'homme a une place très particulière dans le cœur de Dieu. L'homme a une place vraiment très particulière. Vous avez une place très particulière dans le cœur de Dieu. Parce que vous êtes un être humain. Il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains ici. Non, ça va. Tout le monde est homme, esprit à mes corps. Vous avez une place particulière dans le cœur de Dieu. Lorsque Dieu va créer Adam et
Ève,
il avait trois raisons pour le faire. La première, c'est qu'il a voulu avoir une créature avec laquelle il pouvait avoir une relation, une communion. Ça, c'est fondamental dans le cœur de Dieu. Le relationnel avec Dieu, ça a toujours été numéro un dans son cœur. Dieu est un Dieu de relation. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'est pas un Dieu de philosophie. Dieu est un Dieu de relation. Parce que Dieu est amour. Et que dans l'amour, il y a une relation. C'est obligatoire. Et c'est une des plus grandes caractéristiques de Dieu. Dieu est un Dieu de relation. C'est ce qu'il cherche tout le temps chez l'homme. Avoir une relation et non pas une religion. Et Adam et Ève avaient une relation parfaite dans le jardin d'Éden. Comme tout homme peut avoir une relation avec Dieu, il a la capacité. L'homme a la capacité d'avoir une relation. Parce que l'homme est un être spirituel. Donc il peut avoir une relation avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est la domination des œuvres de ses mains. Dieu avait créé toutes choses. Et il a dit à l'homme, je vais te placer là. Et toi, tu vas dominer. Je te place comme un dominateur, comme un roi. Un roi sur ma création. C'est ce que Dieu avait prévu. Ensuite, Dieu, bien sûr, voulait un être qui puisse rester sur la terre. Donc un être spirituel, mais qui devait aussi être sur la terre.
Et
ce qui nous retient sur la terre, c'est notre corps. Donc nous pouvons être en relation avec Dieu, mais aussi toucher le monde matériel. Ce que les anges ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que Dieu nous a voulu comme ça. Donc Adam et Ève sont parfaits. Ils sont dans une relation parfaite. Mais ce qui va se produire, bien sûr, vous le savez, ils vont chuter. Il va y avoir une coupure, un mur entre Dieu et
eux.
Ce mur, c'est le péché. Et Dieu, à partir de ce moment-là, quand Adam et Ève vont être déchus, Dieu va pourvoir un système qui va permettre à l'homme de pouvoir s'approcher de lui, mais dans une certaine mesure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans Genèse 3, 21,
itanguriro ikigabane cya gatatu mirongo mirongo ibiri na rimwe.
Il est dit l'Éternel Dieu juste après la chute fit à Adam et à Ève des habits de peau dont il les revêtit.
Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'isato arabambika.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset.
Kuri uyu murongo hari byinshi umuntu yovuga.
Mais je veux simplement insister sur une chose.
Ariko na cyane cyane ndagomba gushimikira ku kintu kimwe.
Cette peau venait d'où?
Uru rusato rwavaye.
C'était des animaux bien sûr.
Yari gikoko.
Dieu va prévoir.
Imana yateguye.
Dans la façon dont l'homme pourra s'approcher de lui.
Mu buryo umwana w'umuntu ashobora kumwegera.
Il va prévoir que ce seront les animaux qui vont payer.
Imana yateguye yuko ari ibikoko bizoriha mu kibanza cy'abantu.
Quand l'homme va chuter.
Igi umwana w'umuntu yacumuye.
Jusqu'au sacrifice parfait qui est Jésus.
Gushika igihe Yesu yitanze.
L'homme pourra s'approcher de Dieu d'une façon très limitée. Mais seulement, uniquement, exclusivement, seulement par un animal. Un animal qui va être donné seulement par un sacrifice. Seulement par un sacrifice. L'homme pourra, à partir de ce moment-là, s'approcher seulement parce qu'il y a une vie qui est donnée. Et cette vie ne peut pas être humaine. Le diable aura essayé de pervertir ça.
Où
il va pousser des gens à travers de puissances démoniaques à vouloir faire des sacrifices d'êtres humains. Et ça, c'est pervertir ce que tu as voulu. Parce que le seul sacrifice humain que Dieu agréera, ce sera Jésus à la croix. Il n'y aura pas d'autre. Ça sera le seul
sacrifice
que Dieu pourra agréer. Dieu le Fils fait chair qui va donner sa vie en
rançon
pour l'humanité. Entre le temps où Adam et Ève sont là, sont créés, jusqu'au moment où le sacrifice parfait va se donner, il va se passer 4000 ans d'histoire de l'humanité. Quand Adam et Ève vont chuter, jusqu'au moment où Dieu va donner une loi, la loi de Moïse, il va se passer 2500 ans. Pendant ces 2500 ans, vous trouverez histoire après histoire d'hommes de Dieu qui vont s'approcher de Dieu. Et la seule façon dont ils vont le faire, ce sera en offrant une bête, un sacrifice. Vous voyez Abraham, il va offrir un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Vous regardez Noé qui sort de l'arche. La première chose qu'il fait, avant d'invoquer le nom de l'Éternel, il prend une bête et va l'offrir à Dieu. Caïn et Abel, pourquoi est-ce qu'ils ont eu un problème? Parce qu'il y en avait un qui refusait ça. Les fils même d'Adam et Ève, il y en a un qui a refusé. Caïn a refusé. Il voulait s'approcher de Dieu avec ce qu'il avait produit. C'était brave, c'était gentil. C'était bien intentionné. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait ordonné. Et quand on fait quelque chose, même si on est bien intentionné, qui n'est pas ordonné par Dieu, et bien ça ne marche pas. Et c'est ce que Caïn a fait. Et après, il a montré la méchanceté de son cœur. Abel, lui, avait compris. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève les avaient enseignés. Ils les avaient enseignés sur le sacrifice. Ils les avaient enseignés. Parce que Dieu va reprocher à Caïn de ne pas faire de la bonne chose de la bonne manière, parce qu'ils le savaient, parce qu'Adam et Ève les avaient enseignés. À partir du moment où quelqu'un s'approchait de Dieu, il devait passer par un sacrifice, il devait offrir une bête. Cette bête devait être mise en holocauste. Le sang de cette bête devait couler et cette bête devait être brûlée. Et alors seulement, cette personne pouvait invoquer le nom de l'Éternel. et là il pouvait se passer quelque chose. C'était comme ça que Dieu avait voulu les choses. Parce que la Bible nous dit dans
Hébreux 9:22
une loi spirituelle importante. Dans Hébreux 9:22 il y a cette loi du pardon. Or sans effusion de sang il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire si le sang ne coule pas il n'y a pas de pardon. La dernière partie du verset nous dit ça. C'est une loi spirituelle. Si le sang ne coule pas, alors il ne peut pas y avoir de pardon divin. Dieu, 2500 ans après Adam et
Ève,
après leur chute, va susciter un leader. Et là, nous sommes dans l'histoire d'Israël. Israël est captif en Égypte. Dieu suscite un leader, Moïse, pour faire sortir son peuple qui était esclave des Égyptiens. Dieu va être obligé d'utiliser la manière forte parce que Pharaon ne voulait pas faire sortir. Il avait des esclaves gratuits, plus d'un million gratuitement, c'était bien, ça permettait de construire l'Égypte facilement. Mais Dieu voulait que son peuple sorte. C'était le temps que son peuple sorte. Et Dieu va envoyer des plaies. Vous connaissez tous les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière de ces plaies va être un jugement de Dieu. Parce que Pharaon avait endurci son cœur. Et Dieu devait envoyer un jugement qui allait faire plier cet homme. Parce qu'il devait plier devant la puissance de Dieu. Et alors ce qui s'est produit, c'est que Dieu avait dit, je vais envoyer un jugement.
Ce
n'était pas un démon, c'était un ange de Dieu qui allait juger. Dieu allait envoyer un ange qui allait frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et Dieu va instituer un sacrifice qui va permettre au peuple d'Israël qui était dans le territoire d'Égypte de ne pas être touché par ce jugement. Et c'est là où le sacrifice de la Pâque va voir le jour. Et dans ce sacrifice, il y a de grandes richesses. Nous allons étudier quelques principes. On peut pas tout couvrir. D'abord, le mot Pâque veut dire la chose suivante. Le mot Pâque veut dire passer au-dessus
de,
passer par-dessus. Et là on parle d'un jugement littéralement. Au travers de ce sacrifice, le jugement devait passer au-dessus des
Israéliens.
Donc ne pas les toucher. C'est ça que ça veut dire,
Pâques.
Et ça a une puissante signification. Derrière ce sacrifice, il y a de puissantes lois spirituelles qui vont être en application ici pour nous, qui sommes sous le Nouveau Testament. Dieu donc prévoit ce sacrifice. Et je ne veux pas prendre en détail ce sacrifice parce que rien que d'étudier Exode chapitre 12 nous donnerait de passer plusieurs heures d'enseignement. Mais nous allons prendre certains principes et voir Christ notre vrai
Pâque.
Donc nous voyons que l'objectif de Dieu au travers de la Pâque, c'était d'éviter le jugement. Quand nous transposons ça dans le Nouveau Testament, rappelez-vous d'une chose. Si vous prenez un texte de l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas l'appliquer aux chrétiens comme ça n'importe comment. Vous devez interpréter ce texte à la lumière du sacrifice de Jésus. Sinon, vous faites une erreur d'interprétation. Vous risquez de dire des choses qui sont fausses.
ou de croire des choses qui sont fausses. Et il faut faire attention. Parce que la parole de Dieu s'adresse à nous qui sommes chrétiens et nous avons besoin de connaître notre alliance. L'alliance que nous avons en
Christ.
Bon, il prenait un agneau sans défaut. Ça, bien sûr, c'est l'image de Jésus qui était parfait. Sans péché. Cet agneau, il devait l'égorger. Le sang, bien sûr, devait couler. Ensuite, nous l'avons vu tout à l'heure, il devait appliquer ce sang sur les montants des portes. Et là, il allait y avoir une certaine protection. Il y allait y avoir une protection. La Bible nous montre dans Exode 12 que quand l'ange de la mort passerait, il verrait s'il y a le sang sur les portes, les linteaux des portes. Et à ce moment-là, il passerait au-dessus. Le jugement ne les toucherait pas. C'est bien sûr une image pour nous. Celui qui a reçu Christ comme son sauveur personnel, qui est capable de témoigner d'une transformation de vie, qui un jour s'est mis devant la croix de
Christ
et a dit: oh Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être purifié par ton sang précieux, je crois que tu es mort à ma place et que tu es ressuscité. À ce moment là cette personne, quand elle accepte Christ dans son cœur, elle va vivre un miracle, un miracle qui n'est pas extérieur mais un miracle qui va se passer dans son cœur. Il s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance va créer une protection au travers du sang de Jésus. Vous savez, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, sont sous la colère de Dieu. La Bible nous montre qu'il y a un jugement sur eux. Ce jugement sera arrêté le jour où ils vont mourir, c'est-à-dire quitter leur corps physique, et qu'ils vont aller en enfer. À ce moment-là, c'est terminé. Ils n'ont plus la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Le jugement de Dieu est sur eux. Le jugement de Dieu est sur eux. Donc vous voyez, c'est une image que Dieu nous a donnée au travers de la Pâque. Quand Dieu devait juger les Égyptiens, que l'ange de la mort allait passer dans chaque maison, le jugement devait tomber. Mais s'il faisait ce que Dieu leur avait dit, alors le jugement était évité. Et ce jugement passait au-dessus d'eux. Alors la Bible va nous montrer que la Pâque, la vraie Pâque, c'est Christ. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. On va lire à partir du verset 6. Je ne veux pas faire un commentaire trop sur le contexte de l'église des Corinthiens. Il n'est pas bon votre sujet de gloire, parce qu'ils avaient des problèmes dans leur église, et en plus ils se vantaient. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe rishya nkuko mutarimo umwambiro kuko umwagazi w'intama wa pasika wacu watanzwe ku kimazi ari we Kristo.
Là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le levain, cette histoire de levain?
Ah, monsieur, alors kumbira mutsimbega iyo myambiro ije gukora iki?
Oh, je vais vous faire juste une petite parenthèse.
Reka ndabacishirizemo gatoyi.
Quand il mangeait l'agneau pascal,
mugihe barya umwagazi wa pasika,
il le mangeait avec des pains dits sans levain.
Barya n'imikate imikate itarimo imyambiro imeze nk'icapati.
Vous savez, le pain est fait d'une façon très simple.
Murazi burya imikate ikogwa mu buryo busanzwe.
Si vous mettez de l'eau,
ushizemo amazi,
si vous mettez de la farine,
ugashiramo ifarini,
un peu de sel,
ugashiramo umunyu,
et vous faites cuire ça,
hama ukabiteka,
et bien vous aurez quelque chose de très dur et de très plat. Et en fait, on met ce qu'on appelle du levain, qui est une substance chimique que l'on rajoute à cette préparation.
et que l'on met dans le four.
Et
c'est pour ça que vous avez des pains qui sont gonflés.
Et
l'image du levain dans la Bible, c'est un symbole de l'hypocrisie. Vous savez, des gens qui font des choses, non pas parce qu'ils ont le cœur pour Dieu, mais ils sentent, vous savez, la religion. Vous savez que la religion, ça pue. Ça sent mauvais.
Et
ça n'approche vraiment pas de Dieu. Et dans la religion, il y a de l'hypocrisie.
Et
Dieu avait ordonné aux
Israélites
de prendre cette Pâque parce qu'ils avaient un cœur pour Dieu et non pas par hypocrisie, en étant fou, en faisant des choses parce que les autres le font. Mais au contraire, en faisant les choses parce qu'ils aimaient Dieu et qu'ils voulaient obéir. Et là, Paul parle d'un problème qu'il y avait dans l'église de
Corinthe
avec des gens qui étaient hypocrites. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset où il est dit car Christ est notre Pâque. Dans l'Ancien Testament, l'alliance qu'ils avaient ne permettait pas d'effacer le péché. Mais ça permettait seulement de couvrir leur péché. Ils avaient une couverture sur leur péché. Le peuple d'Israël vivait comme ça. Ils venaient avec leurs bêtes. Ils faisaient des sacrifices. Et leur péché était simplement couvert. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Et quand ils mouraient, ils descendaient dans un endroit qui s'appelait le Saint Abraham, que Jésus a visité après. Je
ne
veux pas faire un enseignement là-dessus, mais je veux insister plus sur l'aspect du sacrifice. Et en fait, leur péché était couvert. Seulement couvert. Ils n'étaient pas effacés. Et les sacrifices qu'ils offraient étaient imparfaits. Leur alliance était imparfaite. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne pour faire un sacrifice parfait, pour s'offrir d'une façon parfaite, une fois pour toutes. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, quand vous venez à l'église, vous amenez plus vos brebis, vos pigeons, vos tourterelles et tous vos oiseaux qu'on sacrifierait ici même. Et toutes sortes d'animaux que Dieu demandait dans l'ancienne alliance. Parce que nous avons un sacrifice parfait. Jésus, qui est notre Pâque, et qui a versé son sang une fois pour toutes. Et nous n'avons pas besoin d'y revenir. Et je vous garantis, les choses ont été simplifiées. Et ce matin, j'aimerais insister sur trois lois spirituelles qui ont été mises en action lorsque Jésus s'est donné à la croix. La première, c'est bien sûr cette loi qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un aspect de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais cet aspect était très limité. Comment est-ce que les Israélites offraient leur sacrifice? Dieu avait prévu tout un système qu'on appelle le sacerdoce, c'est-à-dire la façon dont Dieu pouvait permettre au peuple de s'approcher de lui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Dieu avait ordonné à Moïse de construire une tente, un tabernacle, avec tout un tas de trucs autour, une clôture, tout ça c'était démontable. Et dans ce tabernacle, il y avait deux parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était séparé par un voile, un rideau. Dans le lieu saint, les sacrificateurs venaient et ils faisaient régulièrement le service. Les gens venaient, ils apportaient leurs brebis, leurs oiseaux, etc., suivant les sacrifices. Et puis, le sacrificateur tuait la bête. Ça, c'était à l'extérieur de la tente. Dans la clôture. Dans la parcelle démontable. Et ils avaient un endroit où ils égorgeaient la bête, où ils faisaient couler le sang. Où ils brûlaient la bête aussi. Puis ils récupéraient une partie du sang. Et là, ils aspergeaient soit la personne, soit les différents instruments à l'intérieur de la première partie de la tente.
Et
c'est vrai que ça nous paraît un peu complexe. Mais dans la deuxième partie du tabernacle, derrière le voile, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. C'était une espèce de coffre, recouvert en or, etc. Et dessus, il y avait un couvercle. Et ce couvercle avait un nom particulier. Il s'appelle en français le propitiatoire. Et en fait, ce mot propitiatoire vient d'un mot qui veut dire rapprocher. Rapprocher. C'était là où Dieu même manifestait sa présence. C'était là où Dieu était le plus proche. Et c'est une image pour nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme je vous le disais, le tabernacle était séparé. Il y avait un voile. Quand les sacrificateurs entraient dans cette première partie, ils ne voyaient pas l'arche de l'alliance. Ils ne voyaient pas le couvercle propitiatoire. Ils ne voyaient pas la présence tangible de Dieu. Parce que l'accès était bloqué. En Jésus-Christ, quand Jésus s'est offert sur la croix, son sang a coulé. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2.13, nous dit une chose importante. Ça nous parle d'une relation avec Dieu. Ce voile a été déchiré. Vous vous rappelez que cette histoire dans les évangiles, quand Jésus est mort, le voile du temple est tombé. La Bible nous parle du voile de sa chair dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui nous séparait de Dieu. Regardez au verset 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ.
Murabe ku murongo wa 13 baravuga ngo ariko noneho kuko muri muri Kristo Yesu mwebwe bari kurekera mwigishwe hafi na maraso ya Kristo.
À partir du moment où tu es né de nouveau,
tu as
été rapproché de Dieu. Tu es proche de Dieu.
Il
habite en toi.
Et
la relation est ouverte. La Bible nous dit dans la première épître de Jean que nous sommes en communion, en relation avec Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau,
ses
péchés ont été pardonnés. Christ est venu habiter dans son cœur, dans son esprit. Et à ce moment-là, cette personne est en relation. Il a été rapproché par le sang. Le sang de
Christ
a rapproché cette personne. Maintenant, bien sûr, cette relation doit être développée. Rappelez-vous, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est une rencontre personnelle avec Jésus. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il doit être capable de témoigner de sa vie avant de connaître le Seigneur. Du moment où il a rencontré Christ, et qu'est-ce qui se passe depuis qu'il a reçu Jésus? Sinon, cette personne est un menteur. La deuxième loi que nous voyons, c'est la loi de la substitution. Se substituer, c'est quoi? c'est prendre la place de quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui est très puissant, qui nous était montré, d'ailleurs, au travers d'un sacrifice dans Lévitique, chapitre
16.
Lévitique, chapitre 16, c'est un sacrifice très particulier. On en parle, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parler qu'une fois par an, eh bien, le souverain sacrificateur, le responsable, le chef des sacrificateurs, il pouvait entrer à l'intérieur de la deuxième partie du tabernacle derrière le voile. Mais une fois par an. Une fois par an. Et dans Lévitique chapitre 16, il nous a expliqué ce sacrifice. Et c'est une image. Bien évidemment de ce que Jésus a fait. Rappelez-vous l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses. Par exemple, si vous ne voyez que l'ombre de quelqu'un,
bah,
vous verrez à peu près la forme. C'est-à-dire s'il est grand, s'il est petit, s'il a le gabarit cure-dent, ou s'il en a un peu plus du côté devant, vous pourrez à peu près distinguer la forme. Mais par contre, vous ne pourrez pas distinguer la couleur de ses habits. Parce que vous ne voyez que son ombre. Vous pourrez à peine déterminer son âge. Vous n'avez pas de détails. Vous ne savez pas. Vous voyez juste l'ombre. Par contre, quand vous voyez la personne elle-même, bah, vous êtes capable d'avoir tous les détails. Et c'est exactement la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible nous dit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament que ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Ici, pendant ce sacrifice de Lévitique chapitre 16, ça se passait une fois par an. Le souverain sacrifice devait tirer au sort une bête. Je vais passer un peu sur les détails. Et cette bête s'appelait ce qu'on appelle en français, certains vous avez entendu cette expression, le bouc émissaire. Quand on parle d'un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui paye pour les autres. Par exemple, vous avez un groupe de gens qui ont fait des blagues, et il y en a un qui se dénonce, et c'est lui qui est puni pour tous les autres. C'est un peu l'image du bouc émissaire. Et cette expression vient de ce sacrifice d'ailleurs. On prenait cet animal, et cet animal allait payer pour les péchés du peuple. Mais ça, c'était une fois par an. Certains parmi vous, vous avez entendu parler du jour des expiations ou le Yom Kippour que les Israélites encore célèbrent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le jour des expiations qui se passait une fois par an. Ça se passait une fois par an où le souverain sacrificateur allait pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Et il faisait une chose assez particulière sur cet animal. Il est dit au verset 21 de Lévitique chapitre 16. Donc il prend cet animal et Dieu dit à Aaron, donc le chef des sacrificateurs, le souverain sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Et il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui, regardez bien cette expression, sur lui, toutes les fautes dans une terre désolée ou desséchée, dans un désert. On chassera le bouc dans le désert.
uwo Aroni no kuvuga yaramukuru w'abaherezi aheza arambika ibiganza vyiwe vyompe mu ruhanga rw'iyo mpene idora ayaturire ko ibigabitanyo vy'abisiraye vyose n'ibicumuro vyabo vyose n'ivyaha vyabo vyose abiremeke mu ruhanga rw'iyo mpene ayihe umuntu yari yibangikanije ayijane mu bugaragwa.
Ça, ça va être une image très forte du sacrifice de
Christ.
Ici, le bouc qui était désigné, on imposait les mains sur lui, on confessait le péché du peuple, et il y avait un transfert spirituel du péché du peuple sur cet animal. Et on laissait partir cet animal dans le désert où il allait mourir. Et c'est une image. C'est l'image d'Ésaïe 53. Regardons ensemble Ésaïe 53. Ce merveilleux passage prophétisé par le prophète 700 ans avant le sacrifice. 700 ans avant le sacrifice de Jésus, Ésaïe va recevoir cette prophétie sur ce que Jésus va faire. Comment Jésus va être notre
substitut.
Et nous allons voir ensemble ces quelques lignes. Regardons ensemble à partir du verset 4. Il est dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
Nukuri nizacu ntimba yishizeho niyacu miyoboro yikoreye ariko twe twamwiyumvire nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kiturunkesha amahoro cabaye kuriwe kandi mishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagisabagire umuntu wese mu nzira yiwe Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu kose.
Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il nous est dit que Jésus est devenu péché. Dans Ésaïe
53:10,
il nous est dit que Jésus est devenu maladie. Dans la deuxième épître aux Corinthiens encore, il est dit que Jésus est devenu pauvre.
C'est
fait pauvre, littéralement. Et nous savons que ça fait partie de ce qu'on appelle notre identification. Lorsque Jésus est mort sur cette croix,
qu'il
s'est donné en sacrifice pour nous, il y a eu un transfert spirituel de la malédiction, de la loi. Jésus a porté sur lui ce que toi, ce que moi, je ne pouvais pas porter. Ce que nous ne pouvions pas porter. Jésus, dans son esprit, il a été transféré toute la malédiction de la loi. La Bible nous dit qu'il est devenu malédiction. Et il est devenu péché. Il est devenu maladie. Il est devenu pauvreté. C'est ce que la Bible nous révèle. Ça, ça fait partie de cette loi de substitution. Où il a pris notre place. Pour que nous puissions hériter
de la vie.
Quand il s'est donné à la croix de Calvaire. La dernière loi que nous allons voir, c'est bien sûr la loi de la protection. Lorsque Dieu a institué la Pâque,
Pasika,
il y avait une protection. Une protection particulière sur ceux qui obéissaient
à Dieu.
Sur ceux qui ont mis le sang sur les
linteaux.
L'ange de la mort n'est pas venu les toucher. Il n'est pas venu les toucher. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans Colossiens 3:3, un puissant verset que vous devez méditer. Colossiens
3:3.
La Bible nous dit une chose puissante. La Bible nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu mana.
Que veut dire cette déclaration?
Mega okuko turakuvuga iki?
Ça paraît un peu fou quand on y réfléchit.
Ovyiyumviriye omenga harimo ivyubusazi.
Car vous êtes mort. Qui est mort ici? Vous êtes tous vivants me semble-t-il.
Ntamuzimu turi kumwe.
De quoi la Bible veut-elle parler?
Mega bibiri igomba kuvuga iki?
Est-ce que c'est juste une expression utilisée par Paul?
Ou
est-ce qu'il y a une puissante vérité derrière ça? Bien évidemment, il y a une puissante vérité spirituelle. Vous êtes mort. Vous êtes mort à quoi? Vous êtes mort au monde. Vous êtes mort à votre vie passée. La Bible nous dit que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts pour le royaume des ténèbres. La Bible nous dit que nous sommes nés dans le royaume de Dieu depuis notre nouvelle naissance. Et que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir légal sur toi. Si tu le crois, que tu marches à la lumière de ce que tu es. Christ a fait de toi un fils et une fille. Les ténèbres n'ont aucun droit légal sur toi. Ils n'ont aucun droit légal sur toi. Tu n'es plus fils ou fille du diable. Mais tu es fils ou fille de Dieu. Et les ténèbres n'ont aucun droit légal sur toi. Il n'y a aucune malédiction sur toi. Il n'y a que la bénédiction. Maintenant, s'il faut que tu laisses, c'est cette bénédiction coulée dans ta vie et d'arrêter de croire le contraire. Il est étonnant de voir autant de chrétiens parler. Oh, tu sais frère, le diable il est fort, hein. Il est puissant, hein. Et il a fait ça dans ma vie, hein. Et il m'a encore rendu malade, hein. Et il m'a encore volé ça, et il a fait ceci, il a fait cela. Mais qui sers-tu? Le Dieu Tout-Puissant? Et le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas beaucoup plus puissant que le diable? Qu'est-ce que le diable?
Amen.
À côté de Dieu? Une petite mouche. Une petite mouche dans l'univers. C'est rien de plus. C'est un petit parmi les petits. Et celui qui habite en toi, il est bien plus fort que celui qui habite
en toi.
Donc te laisse pas impressionner.
Amen.
Ta vie est cachée en Dieu. Il y a trop de gens qui méditent sur des choses qui ne sont pas scripturales. Qui ne savent pas qui ils sont en
Jésus-Christ.
Ce que Christ a réellement fait pour eux. Que Christ, la Pâque, la vraie Pâque, a fait pour eux. Lorsqu'il s'est donné à la croix du Calvaire. Nous sommes protégés du jugement de Dieu. Nous avons vu ces choses. La colère de Dieu n'est plus sur nous. Nous avons été libérés du péché. Nous sommes de la famille du papa. Et le papa ne juge pas ses enfants. C'est vrai qu'il peut nous corriger parfois. Mais là aussi, il a pourvu un moyen de protection.
Et
si nous péchons, nous avons simplement à venir auprès de notre père et dire papa, pardon. J'ai péché contre toi. Je te prie pour que tu me pardonnes et que tu me laves par le sang précieux. Et Dieu nous restaure.
Vous
voyez, Dieu a tout prévu. C'est ça qui est bien avec Dieu. Mais malheureusement, trop de chrétiens sont ignorants. Ignorants de cette parole qui les libère. De cette parole qui est libératrice. Qui porte un puissant message. Qui nous amène à pouvoir nous épanouir. Donc sachez une chose, vous êtes protégés contre tout jugement de Dieu. Vous êtes protégés contre les attaques sataniques si vous vous tenez dans la sainteté et vous savez qui vous êtes en
Jésus-Christ,
ce qu'il a réellement fait pour vous. Et vous êtes protégés aussi si vous chutez, si vous revenez à votre Père parce qu'il a pourvu à tout ça, parce qu'il nous aime. Vous voyez cette Pâque.
Amen.
Et encore, il y a bien des choses derrière. Il y aurait bien des choses sur le sacrifice de Christ. bien des choses extraordinaires qui nous révèlent la parole de Dieu.
Et
on ne peut pas tout faire en un sermon. Mais retenez ces puissantes vérités. Le sacrifice devait être là pour
nous.
Et nous avons le sacrifice parfait. Et ce sacrifice nous permet, le sacrifice de Jésus, cette vraie Pâque, nous permet d'être proche de lui, d'appeler sa présence à n'importe quel moment de notre vie, à travers de la louange, l'adoration, à travers de la prière, de la communication avec lui. Il est là et s'est ouvert, ça nous appartient. Nous sommes en communion avec lui. C'est aussi toute chose qu'il a porté, notre substitution. Il a tout pris. Tu n'as pas à souffrir les choses. Mais il a tout pris pour toi. Tu as juste simplement à comprendre ce qu'il a fait pour toi. Et à lui dire merci. Et à vivre dans une marche avec la foi.
Merci.
Dans la foi. Et ensuite, marche dans ta protection. Parce que ta protection, elle est là. Toutes ces choses nous appartiennent. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Et arrête de marcher comme un peuple qui est vaincu, pauvre, misérable. Parce que Dieu ne t'appelle pas à ça. Il t'a sorti des ténèbres. Il t'a sorti de ton péché. C'est pas pour rien. Si nous étions là simplement à attendre le ciel, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais Dieu a prévu beaucoup plus pour nous. Pour que dans cette vie, nous puissions triompher, nous puissions marcher à la lumière de ce qu'il a fait. Dieu nous appelle à triompher dans nos situations au travers de ce que Jésus a fait pour la gloire de son Fils. On va prier un moment sans.